de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour, bienvenue. Comment se fabrique une icône mathématique ? Mort à 20 ans en 1832, Évariste Galois est entré dans la légende autant pour sa vie brève et tumultueuse que pour ses travaux sur les équations. Fils de notable, élève au lycée Louis-le-Grand puis à l'école normale après avoir échoué à Polytechnique, il publie très jeune plusieurs textes qui ont révolutionné les mathématiques. Engagé du côté républicain, il affiche ses convictions politiques et adhère à la Société des Amis du Peuple après les Trois Glorieuses de juillet 1830. Emprisonné à Sainte-Pélagie, il est finalement libéré, puis tué en duel dans des circonstances mal élucidées et enterré dans la fosse commune du cimetière Montparnasse. Qu'est-ce que la théorie de Galois ? Quel est son apport aux mathématiques modernes ? Comment s'est construite la postérité de l'homme et du mathématicien ? Autour de la question « Pourquoi Évariste Galois ?», la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Caroline Erhardt.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Paris 8 en histoire des sciences et l'auteur d'une biographie d'Évariste Galois intitulée précisément Évariste Galois, la fabrication d'une icône mathématique, parue en 2011 aux éditions de l'HESS. 2011 était l'année du bicentenaire de la naissance de Galois puisqu'il est, il est né en 1811 à Bourg-la-Reine et mort, je le disais, en 1832 lors d'un duel devenu mythique. Écoutez.
Nous avons attendu votre témoin. Et ce matin encore, vous venez seul.
Quelle importance ? Puisque je ne tirerai pas.
Ne respectez donc jamais les règles, monsieur Galois.
Messieurs, voici vos armes. Que les témoins des adversaires les contrôlent. L'offensé d'abord. À vous maintenant, monsieur Galois. Puisque vous n'avez pas de témoins, contrôlez-vous-même. Armée, tirez.
Dossier Galois à classer.
À classer. Alors, vous n'avez pas classé ce dossier, Caroline Erhardt. C'est un extrait de l'émission Mourir à 20 ans diffusée sur France Culture en 2005. Votre livre est une biographie de Galois, mais vous vous attachez vraiment à comprendre justement cette fabrication de l'icône, hein, comment il est devenu une légende en revenant au texte. Quelles étaient les sources à disposition, les archives concernant Galois?
Les archives à disposition, en fait, on a les écrits de Galois qui ont été conservés, qui sont à l'Académie des sciences aujourd'hui. À la bibliothèque de l'Institut, plus exactement. Donc on a une centaine de feuillets, je dirais, quelque chose comme ça. Il y a eu une très bonne édition critique dans les années 1960 qui permet de travailler sur ces manuscrits aussi un peu plus facilement et qui sont plus faciles d'accès, évidemment. C'est vrai que ces textes sont essentiellement des textes de maths pour beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, dans les écrits de Galois, on a assez peu d'écrits d'ordre personnel. On n'a pas une grosse correspondance comme on peut l'avoir pour d'autres mathématiciens. Ce qu'on a aussi, c'est des coupures de presse, en fait, des petits articles dans les journaux de l'époque où on entend parler d'Évariste Galois.
Concernant essentiellement ses activités politiques.
Concernant essentiellement toutes ses activités politiques, ses emprisonnements, ses problèmes à l'école normale, enfin, des choses qui relèvent pas par contre des mathématiques.
Alors, je le disais, Évariste Galois est né à Bourg-la-Reine en 1811, dans une famille plutôt de notables. Hein, son père est maire de la ville, sa mère est issue d'une famille de juristes. Et on pourrait dire, pour résumer, alors il est d'abord éduqué par sa mère, hein, jusqu'à l'âge de 12 ans, et puis ensuite il va entrer à Louis-le-Grand. Et on pourrait dire, pour résumer, élève doué mais dissipé.
C'est à peu près ça, c'est ce qui ressort, parce que ce qu'on a aussi, effectivement, ce sont les bulletins scolaires à Louis-le-Grand et tout un tas d'archives scolaires liées à lié à son passage dans ce lycée. Effectivement, ce qui ressort en général, c'est que c'était un élève qui était doué, pas seulement pour les mathématiques, hein, d'ailleurs, qui était aussi doué en grec, en latin.
Pour les humanités.
Voilà, doué pour les études. Mais par contre, en général, les enseignants se plaignent souvent de son comportement. Bon, faut dire que les disciplines à l'époque dans le lycée n'étaient pas totalement la même qu'aujourd'hui, hein, quand même. C'était beaucoup plus rigoureux.
Alors, comment découvre-t-il les mathématiques? C'est une espèce d'éblouissement à un moment?
Alors, c'est ce qu'on voit sur ces bulletins. Donc, à l'époque, l'enseignement des mathématiques ne commençait pas immédiatement la première année du lycée. Il y a eu une réforme au moment où Gallois était là, et donc il a suivi des cours de mathématiques quand il a redoublé sa seconde, en fait, précisément. Et là, apparemment, effectivement, ça a été une sorte de révélation. Ce qu'on lit sur ses bulletins, c'est qu'à partir de ce moment-là, il ne s'est plus intéressé qu'aux mathématiques.
Voilà, il a laissé
le reste de côté. En fait, les ennuis ont commencé.
Voilà. Il ne faisait que ce qu'il avait envie de faire, Évariste Gallois. Alors, comment Gallois fait-il des mathématiques? Écoutez l'éclairage de Michel Brouet, mathématicien et spécialiste de la théorie des groupes.
Gallois était, comment dire, libre et donc insolent, vraiment libre et donc vraiment insolent. Il ne supportait pas les règles non justifiées, il ne supportait pas la prétention imbécile, et il le disait. C'est d'ailleurs grâce à cette attitude qu'il a été le mathématicien qu'il a été, puisque c'est Laurent Schwartz qui disait que les bonnes mathématiques sont subversives. Et la subversivité, c'était tout Gallois.
Alors, est-ce que les bonnes mathématiques sont subversives, Caroline Erard?
Je ne sais pas, au XIXe siècle, on a des très bons mathématiciens qui sont pas... Laplace, par exemple, ou Cauchy, ne sont pas forcément des gens subversifs. Oui. Gallois, effectivement, avait un côté beaucoup plus subversif dans ce qu'il faisait, au sens où, en fait, les mathématiques qu'il pratiquait ne rentraient pas forcément dans les moules, dans les cadres de l'époque, tout à fait.
Voilà. Donc, alors, si on suit le parcours de Gallois, donc lycée Louis le Grand, il échoue au concours de Polytechnique et il va décider d'entrer à l'école normale, enfin ce qui s'appelait l'école préparatoire, mais en fait c'est l'ENS, hein, l'école normale supérieure. Quel est ce parcours à ce moment-là et au fond il va concevoir une tristesse, alors peut-être pas une aigreur, mais une tristesse de ne pas être entré à Polytechnique, parce qu'au fond ce qui est intéressant concernant Gallois, c'est que il avait envie de rentrer dans le moule.
Complètement. Effectivement, il avait envie de rentrer à l'école polytechnique, qui était en fait le lieu où, à l'époque, rentraient tous les jeunes gens qui se destinaient à une carrière scientifique, pas seulement une carrière militaire. Hein. Et il a échoué au concours. Alors là encore, le concours se passe à l'oral, donc il y a un certain nombre de légendes à propos de cet échec, mais on ne saura jamais exactement. Toujours est-il qu'il est rentré à l'école préparatoire. Alors effectivement, c'est devenu l'ENS, mais à l'époque, l'école préparatoire n'a pas du tout le même aura que peut avoir l'ENS aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une école où on forme en fait des professeurs pour l'enseignement secondaire dans les lycées, ce qui est déjà un poste assez haut placé dans l'éducation nationale, hein, mais enfin dans l'instruction publique plutôt. Mais ça n'est pas du tout le même prestige que l'école polytechnique. Donc Gallois est rentré là après avoir réussi le concours d'entrée, tout simplement. Et il a assez mal, je pense, enfin, ce dont on a l'impression, en tout cas, c'est qu'il a assez mal vécu, effectivement, la différence de niveau ou d'état d'esprit entre polytechnique
et de considération.
Et de considération, mais aussi de... le fait que, par exemple, en juillet 1830, les jeunes polytechniciens sont sortis pour faire la révolution, alors que les normaliens n'ont pas eu, les étudiants d'école préparatoire n'ont pas eu le droit de sortir.
Alors voilà, ça c'est intéressant. En fait, il a été enfermé dans l'école par le directeur de l'école normale. Qui ensuite a un peu retourné sa veste, puisque le lendemain il a arboré la cocarde. Donc ça a été un vrai souci.
Oui, ça a été un vrai souci. Globalement, de toute façon, la discipline dans l'école préparatoire était une discipline qui était proche de celle du lycée Louis le Grand, donc assez cadrée, hein, on va dire. Bon, ça a été aussi le cas pour l'école polytechnique à l'époque, mais probablement il n'avait pas la même vision des choses. Du coup, il avait déjà eu un certain nombre de problèmes disciplinaires à l'école préparatoire, comme il avait pu en avoir avant à Louis le Grand. Et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Effectivement, Gallois aurait voulu sortir en juillet 1830 et le directeur n'a pas laissé sortir ses élèves, ce qui était aussi la réaction quelque part un peu normale du directeur responsable d'une institution en période de révolution. Hein. C'est...
Voilà. Autour de la question pourquoi Évariste Galois, quels sont ses premiers travaux de recherche? Comment en arrive-t-on aux mémoires sur la résolubilité des équations par radicaux? On en parle juste après Bertrand Burgala, sentinelle mathématique sur RFI.
Géométrie, logique, je faisais de mon mieux pour gagner du terrain, suivre la diagonale pour trouver le chemin. Je restais très longtemps à contempler des plans. Aujourd'hui je prends la tangente, j'aime bien. Entre deux parallèles impossibles, je sens que je vois bien. Le sens de la mesure me rapproche de mon destin. Sentiment mathématique, ma vision logique. La vie désormais s'organise en relevé topographique. Une aventure moderne au contour élastique se trace sur des graphiques précis et synthétiques. De grandes œuvres sereines, d'un nouvel art hypnotique, c'est le calcul essentiel de centaines de chiffres. Sentinelle mathématique, ma vision logique. La vie désormais s'organise selon les nombres réels et en chiffres. L'axiome est simple et défini. Toucher la fraction de la vie, frôler la zone interdite, atteindre le moment cinétique. Mathématique, sentinelle mathématique, nombre, figure, structure, géométrie, logique.
Bertrand Burgala, sentinelle mathématique sur RFI. Caroline Erhardt, si on se remet dans le contexte, il faut bien comprendre que Galois est un étudiant qui mène en parallèle des recherches.
Oui, complètement. Alors, ça peut paraître surprenant, effectivement, dans l'absolu. Après, il faut aussi comprendre que le domaine sur lequel il travaille, la théorie des équations, c'est un domaine, en fait, sur lequel, finalement, les prérequis sont importants, mais ne sont pas monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait à l'époque des livres relativement pédagogiques, pour le coup, et notamment un traité de Lagrange, que l'on pouvait tout à fait avoir lu en classe prépa. C'est-à-dire qu'il y avait, pas des... On pouvait accéder à la recherche, enfin, à l'actualité de la théorie des équations à partir uniquement de ce que l'on pouvait avoir appris en prépa.
Mais Lagrange était au programme de la prépa ou il avait lu ça en plus de
Alors,
son programme
Le livre de Lagrange a un statut un petit peu ambigu de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on le trouve assez souvent dans les bibliothèques des lycées. On le trouve recommandé pour les mathématiques transcendantes, après le cours le plus avancé de mathématiques après la Révolution. Au temps de Galois, le livre n'était pas forcément encore strictement dans le programme, mais il était dans pas mal de bibliothèques, de lycées, et c'était en tout cas quelque chose qui était très lisible, disons.
Alors, on va voir comment on en arrive au fameux mémoire sur la condition de résolubilité des équations par radicaux. Et on va parler des autres mathématiciens qui ont pu nourrir les travaux de Galois. Écoutez un autre extrait de l'émission Mourir à 20 ans, diffusée sur France Culture en 2005.
Ça vous intéresse ?
Beaucoup. Ce sont des substitutions ?
Vous voyez bien.
Ça vous sert à quoi ?
À résoudre des équations.
De quel degré? Au-dessus du quatrième, personne n'y est arrivé. Abel lui-même...
Abel était un génie.
Vous travaillez sur les équations?
La question est réglée. J'ai trouvé la condition nécessaire et suffisante pour qu'une équation dans le cas général soit résoluble par radicaux.
Ce serait un beau résultat.
Au-dessus du quatrième degré, cette résolution dans le cas général est impossible. Ainsi que l'avait pressenti Abel. Je fonde ma démonstration sur le fait que dans le groupe de permutation de lettres, qui tout à l'heure a attiré votre attention, il n'existe pas, pour n plus grand que 4, de sous-groupe intermédiaire normal autre que le groupe des permutations paires.
Je ne vois pas très bien le rapport avec les équations.
C'est pourtant évident. Réfléchissez. À la place des lettres, mettez les n racines d'une équation du nème degré. Vous comprendrez peut-être mieux. Vous obtenez la collection complète de toutes les permutations que l'on peut effectuer. Parmi elles, il y aura toujours un groupe qui laissera invariant les fonctions rationnelles formées à partir des racines. Si vous arrivez à abaisser le nombre des permutations jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la permutation identique, alors l'équation est résoluble. Sinon, elle ne l'est pas.
Et on arrive à des résultats pratiques intéressants avec votre méthode?
Je pense bien. Les calculs sont impraticables. Une vie entière n'y suffirait pas.
Alors ça sert à quoi?
À boucler une fois pour toutes la question.
Voilà, ça sert à quoi la question qu'il ne faut absolument pas poser en mathématiques? Alors, est-ce que vous pouvez expliciter ce qu'on vient d'entendre, Caroline Erhardt? Équation, substitution, permutation, groupe?
Une équation, en fait, c'est une formule mathématique dans laquelle on cherche, en fait, la valeur d'une inconnue. L'équation, dans le cas de Galois, sont des équations polynomiales, donc des puissances de x avec des coefficients. Et effectivement, normalement, quand on cherche à résoudre une équation, on cherche en fait une formule dans laquelle, une formule avec des opérations algébriques qui permet de calculer les solutions à partir des coefficients. Alors effectivement, la voie qu'a suivi Galois, justement, n'est pas celle-là. C'est-à-dire ce sur quoi il a essayé de réfléchir à la place, c'est plutôt la manière dont fonctionne une équation et qu'est-ce qui fait qu'on peut résoudre ou pas une équation. Et pour cela, il s'est servi de ce qu'on appelle des permutations, des substitutions. Enfin, le mot est varié historiquement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un certain nombre d'éléments, par exemple 1, 2, 3, 4, eh bien, vous pouvez écrire à la place de 1, 2, 3, 4, vous pouvez écrire 2, 4, 1, 3. Quand vous faites ça, vous faites une permutation en fait de 1, 2, 3, 4. Donc en faisant ça avec les racines, en regardant toutes les manières en fait de permuter les racines, on obtient ce que nous aujourd'hui on appelle un groupe. C'est-à-dire une structure mathématique qui obéit à un certain nombre de règles.
Quelle est l'influence du mathématicien Abel, dont on a entendu parler dans l'extrait, contemporain de Galois?
Complètement contemporain. Alors, le mathématicien Abel, en fait, avait travaillé un peu sur, enfin, avait abordé le même sujet, c'est-à-dire qu'un des grands problèmes sur la résolution des équations, c'est qu'on savait depuis très longtemps résoudre algébriquement des équations jusqu'au degré 4. Et on ne savait pas, en fait, résoudre des équations pour de degrés 5 ou plus. Et Abel avait montré, juste avant, en fait, quelques années avant, que pour les équations de degré 5, ceci n'était pas possible. D'où, en fait, alors Galois, apparemment, au départ, quand il a commencé ses recherches, ne connaissait pas cette démonstration. Ce qui est possible, elle venait de sortir et il était lui-même en formation, malgré tout. Mais ah bon, après, il a eu connaissance de cette démonstration. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a légèrement fait dévier le problème. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, ben, puisqu'on ne peut pas les résoudre de manière générale, quelles sont celles que l'on peut résoudre? C'est d'où le critère en question, en fait.
Alors, Galois va présenter ses travaux à l'Académie des sciences et il va être retoqué, refusé. Il en concevra là une grande amertume, Caroline Erhardt.
Complètement. Alors, être retoqué à l'Académie des sciences, c'était quelque chose qui arrive. Hein. Ce sont des, disons qu'à l'époque, dans les années 1830, l'Académie des sciences est une institution qui reçoit énormément de sollicitations. Elle joue un petit peu le rôle d'un espèce de tribunal de la science, ce qui fait que des gens envoient des travaux de partout. Après, dans les pratiques de cette académie, certains travaux vont être simplement laissés de côté quand on estime qu'ils sont pas très intéressants. On fait pas forcément un rapport dessus, juste on les ignore un petit peu. D'autres travaux vont faire l'objet de rapports positifs. Le cas de Galois est assez particulier parce qu'il a fait l'objet d'un rapport, mais négatif, ce qui en soi était assez rare, en fait, dans le fonctionnement de l'Académie des sciences.
Alors, on va s'intéresser dans la deuxième partie de cette émission aux activités politiques d'Évariste Galois qui vont de pair avec ses activités mathématiques. Autour de la question pourquoi Évariste Galois, Caroline Erhardt, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes, juste après les informations.
de la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question « Pourquoi Évariste Galois ?» avec Caroline Erhardt, maître de conférence à l'université Paris 8 en histoire des sciences et auteur de « Évariste Galois, la fabrication d'une icône mathématique » paru en 2011 aux éditions de l'EHESS. Quelle est la méthode de Galois, sa spécificité? Qu'est-ce qui le distingue des autres mathématiciens? On écoute un extrait d'un texte d'Évariste Galois lu par le comédien Emmanuel Lemire et diffusé dans l'émission « La marche des sciences » sur France Culture.
Sauter à pieds joints sur ses calculs, grouper les opérations, les classer suivant leurs difficultés et non suivant leur forme. Telle est, suivant moi, la mission des géomètres futurs. Telle est la voie où je suis entré dans cet ouvrage. Il ne faut pas confondre l'opinion que j'émets ici avec l'affectation que certaines personnes ont d'éviter en apparence toute espèce de calcul en traduisant par des phrases fort longues ce qui s'exprime très brièvement par l'algèbre et ajoutant ainsi à la longueur des opérations les longueurs d'un langage qui n'est pas fait pour les exprimer. Ces personnes-là sont en arrière de 100 ans.
Pourquoi Galois dit-il géomètre, Carolina?
Alors, c'est le mot consacré encore au 19e siècle pour mathématiciens. On parle de géomètre, c'est la section de géométrie de l'Académie des sciences. Le terme mathématicien, en fait, est employé plus tard. C'est le mot habituel pour parler de mathématiques, en fait.
Alors, concernant Galois, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il est orthodoxe ou hétérodoxe? Il y a un peu des deux, au fond.
En fait, il y a un petit peu des deux, au sens où il ne part pas de rien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, effectivement, a quand même assimilé la littérature de son époque et même l'actualité de la recherche de son époque sur son domaine. Donc, c'est quelqu'un qui a pu lire Abel, mais qui a pu lire aussi Cauchy, Gauss, Lagrange, donc les grandes recherches qui ont un peu compté là-dessus. Et après, c'est aussi, parallèlement, quelqu'un qui va se servir de tout ça, mais qui va le mettre en œuvre de manière assez différente de ce que l'on peut lire dans des mémoires traditionnellement à l'Académie des sciences à l'époque. Ne serait-ce que le sujet en lui-même n'est pas le sujet consacré à la mode. Hein. Donc de ce point de vue-là, il est entre les deux, on va dire.
Mais est-ce qu'il y a une méthode Galois?
Alors, c'est difficile de parler de méthode parce que les écrits de Galois en eux-mêmes sont quand même très brefs et c'est vrai qu'il parle de ces groupées opérations, etc. C'est toujours difficile de faire la part entre quelque chose qu'il aurait véritablement théorisé et quelque chose qui serait un point de vue qu'il essaye de défendre. On peut pas forcément qualifier de méthode bien au point dans ce cas-là. Après, les autres y ont vu une méthode, par contre. Effectivement, la postérité de Galois s'est construite sur l'idée que ce passage que l'on a entendu, effectivement, ce sont ce que les gens appellent après au XIXe siècle les idées de Galois. Donc, il y aurait effectivement une méthode particulière. Les autres, enfin, les mathématiciens après lui y ont vu une méthode.
C'est qu'il y a eu un décryptage a posteriori.
Il y a eu un décryptage complètement.
Ouais. Et quels sont les points de vue de Galois concernant l'enseignement des mathématiques? Parce qu'il y a des textes très durs sur la manière dont on enseigne
assez violent,
les mathématiques.
Effectivement. Ouais. Il est complètement, lui, en rejet, en fait, du système éducatif de son époque, ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un qui est normalement censé devenir professeur de mathématiques.
Voilà.
Hein. Non, il est complètement en rejet de cet enseignement des mathématiques et plus généralement de l'enseignement dans les lycées à l'époque, avec cette idée que ce qu'il reproche l'enseignement, c'est qu'il faut beaucoup apprendre par cœur, qu'il faut beaucoup ressortir justement exactement les méthodes que l'on a apprises, que les examens se font quand même essentiellement sur... que c'est très routinier.
Des questions de cours.
Voilà, des questions de cours et quelque chose d'assez routinier.
Alors, on va voir comment les travaux mathématiques d'Évariste Galois sont liés à ces activités politiques qui arrivent à partir des Trois Glorieuses de 1830, les 27, 28 et 29 juillet. Je voudrais vous faire écouter un éclairage du mathématicien Denis Gedge qui s'intéresse, entre autres choses, aux idées politiques de Galois.
C'est quelqu'un qui est un révolté, c'est pas un révolutionnaire. Je pense pas qu'il soit exalté. Dans l'exaltation, il y a, comme on dit en maths, l'epsilon de trop. C'est un homme de passion, c'est un jeune homme de passion. Il n'arrive pas à contenir la folle énergie qu'il a en lui, qui est une énergie créatrice de mathématiques, mais créatrice de nouveaux mondes. Voilà. C'est quelqu'un qui a en lui des mondes, et il a un monde mathématique dans sa tête, et un monde politique, et un monde social. Il voudrait produire, créer ou participer à la création d'un monde social communiste, on pourrait dire communiste, libertaire, quelque chose comme, enfin, de cet ordre. Voilà. Et il avait deux passions, hein, c'est la transformation du monde et la création d'un autre monde et la création d'un monde mathématique. C'est pour ça que on voit son ambition. Il a mis au point des outils pour résoudre cette question, qui est celle de la résolution des équations algébriques. Il a mis au point des outils dont je peux dire qu'ils dépassent et de loin ce pourquoi il les a utilisés tout de suite. Bon. C'était un des problèmes, il l'a résolu, et c'est vrai qu'il est de ceux, parmi les scientifiques, qui, après qu'ils aient trouvé le résultat, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est fini, le problème est fini. C'est presque un destructeur de futur. Sur cette question, il n'y a plus rien.
Destructeur de futur, Caroline Erard, vous êtes d'accord avec ce que dit Denis Gage?
Pas complètement, parce qu'en fait, ce que l'on sait, c'est que la postérité de Galois a été absolument énorme.
Oui, mais ça, c'est au-delà de ce que lui voulait ou pensait.
Oui, mais alors après, la question, effectivement, la question de la résolubilité des équations par Radicaux était réglée, en tout cas sous l'angle de la théorie, après ses travaux, effectivement.
Alors, comment Galois s'engage-t-il en politique? Puisque, donc, on a dit tout à l'heure que pendant les Trois Glorieuses, il était enfermé à l'École Normale, donc ça s'est fait après.
Alors, ça s'est fait, apparemment, d'après les sources que l'on a, on pense que son engagement date de l'été juste après ou de l'automne qui a suivi. Alors, il y avait déjà des gens qui pouvaient être liés au milieu républicain, en fait, il y avait un surveillant à l'école préparatoire qui s'est fait virer aussi parce qu'il a eu des problèmes quelques années avant. Il était très lié à Auguste Chevalier, qui était en fait lui-même un saint-simonien.
C'est le frère de Michel Chevalier.
Voilà, donc c'est le frère de Michel Chevalier. Donc il y avait déjà un certain nombre de contacts qui faisaient qu'il était probablement en relation avec le milieu des jeunes gens républicains de l'époque, et l'engagement s'est fait à l'automne, en fait. Voilà, où il a adhéré à la Société des Amis du Peuple.
Ça, c'est fondateur, cette adhésion à la Société des Amis du Peuple.
Oui, parce que c'est un événement important, et c'est une société qui a des activités, enfin, qui fait de l'activisme, disons, qui organise des événements. Il y aura, dans cette société, il y aura Blanqui, il y aura Raspail, voilà. Donc c'est une société qui a joué un rôle important dans le mouvement républicain. Avec une dimension contestataire très forte.
Voilà. Alors, en parlant de contestation, dans la vie de Galois, il y a un événement extrêmement important. C'est un banquet républicain qui a lieu en 1831. Et là, Galois porte un toast à Louis-Philippe avec un poignard.
Alors, effectivement, c'est un épisode. Alors ça, pour le coup, ça a vraiment marqué peut-être la naissance de Galois comme personnage, comme figure publique, parce que toute la presse de l'époque a parlé de ça. Il faut imaginer qu'on est en 1831, d'accord, la Révolution française n'est pas si loin, en tout cas, elle est énormément dans les mémoires des gens. On est la génération de Galois, c'est la génération des enfants, des gens qui ont vécu pendant la Révolution. Et le régicide est encore quelque chose qui est présent dans les esprits. Donc, évidemment, aller brandir un poignard en portant un toast à Louis-Philippe, ça a une portée extrêmement forte de ce point de vue-là.
Mais ce que vous dites, au fond, c'est qu'on n'est pas très sûr de la raison pour laquelle il apportait ce toast. Alors, est-ce que c'était une manière vraiment d'affirmer des idées politiques ou est-ce qu'il avait juste un peu trop bu?
Alors, ce qu'il dira après Auguste Chevalier, ce qu'il écrira à Auguste Chevalier, c'est qu'il avait trop bu. On ne sait pas si c'est vrai, on ne saura jamais si il dit ça parce qu'au fond, Auguste Chevalier était peut-être un peu désapprobateur. Ou s'il dit ça parce qu'il s'est laissé emporter dans le feu de l'action. Ce qui est sûr, par contre, c'est que c'était probablement quelque chose qui était improvisé parce que les Raspail, Blanqui, enfin les grands, les chefs, disons, de ce mouvement qui organisait le banquet, n'avaient pas intérêt à ce qu'un banquet fasse autant de vagues que ça. Un banquet, c'était toujours quelque chose, il y a eu un livre d'histoire là-dessus il y a quelques années, toujours quelque chose qui était à la limite, en fait, de ce qui était autorisé, ce qui ne l'était pas. Donc on essayait, en principe, de ne pas trop attirer l'attention des autorités pour des problèmes légaux.
Donc suite à cet événement, Galois va avoir des ennuis avec la justice, il va être emprisonné. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
À ce moment-là, justement, il est cueilli par la police, il y a un procès. Alors c'est un procès évidemment qui est aussi par ricochet un procès qui donne la parole à la Société des Amis du Peuple. Hein. C'est-à-dire que c'est une période où il y a beaucoup de procès politiques en fait. Hein. Et alors Galois ne fait pas du tout amende honorable au moment de ce procès, mais soit peut-être en raison de son jeune âge, ou en raison du fait qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas, c'était pas Raspail non plus, c'était pas un dirigeant de ce monde-là. Donc il est relâché en fait. Il s'en sort relâché, mais le procès, là encore, a marqué les esprits.
Voilà, tout là, il devient une figure publique encore plus au moment de ce procès.
Au moment de ce procès, et on le sait parce qu'après, effectivement, quand il aura d'autres ennuis, à chaque fois qu'on reparle de Galois, on reparle de lui comme la personne qui avait porté ce toast.
Alors, l'épisode de la prison, Sainte-Pélagie, qui est une prison assez dure, que fait-il à ce moment-là? Il continue à faire des mathématiques.
Alors, il continue à faire des mathématiques. On a un témoignage de Raspail, justement, qui est en prison en même temps que lui et qui a laissé ses mémoires assez fournies. Donc effectivement, Raspail décrit Galois comme continuant à faire des mathématiques à Sainte-Pélagie.
Ouais. On sait très précisément ce qu'il a écrit pendant cette période-là.
On sait une partie. Des manuscrits sont parfois datés, pas toujours. On arrive à savoir une partie, oui, effectivement.
Alors, on va en arriver à l'affaire du duel, Caroline Erhardt. Les circonstances sont toujours assez obscures, mais elles sont probablement liées à une histoire amoureuse. Écoutez la dernière lettre qu'Évariste Galois écrit à son ami Auguste Chevalier.
Lettre à tous les républicains. Je prie les patriotes, mes amis, de ne pas me reprocher de mourir autrement que pour le pays. Je meurs victime d'une infâme coquette. C'est dans un misérable cancan que s'éteint ma vie. Oh, pourquoi mourir pour si peu de choses? Mourir pour quelque chose d'aussi méprisable. Je prends le ciel à témoin que c'est contraint et forcé, que j'ai cédé à une provocation que j'ai conjurée par tous les moyens. Je me repens d'avoir dit une vérité funeste à des hommes si peu en état de l'entendre de sang-froid. Mais enfin, j'ai dit la vérité. J'emporte au tombeau une conscience nette de mensonge. Net de sang patriote. Adieu. J'avais bien de la vie pour le bien public. Pardon pour ceux qui m'ont tué. Ils sont de bonne foi. Évariste Galois.
Alors, l'infâme coquette Caroline Erhardt, c'est Stéphanie, vraisemblablement, hein, parce qu'on est au fond sûr de rien concernant Galois, mais c'est probablement Stéphanie Potrin du Morel, qui est une fille de médecin qu'il rencontre à la pension Fautrier, dans laquelle il va vivre après sa sortie de prison.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le deuxième emprisonnement de Galois a eu lieu au moment où il y a eu une épidémie de choléra à Paris. Et donc, en fait, un certain nombre de détenus ont été mis dans des établissements de santé pour des questions d'éviter de propager la maladie. Et donc Galois fait partie en fait des gens qui ont fini leur peine dans des pensions de santé. Apparemment, il serait resté un petit peu après et il a rencontré cette jeune fille à cet endroit-là.
Mais on n'en sait pas tellement plus concernant ce duel.
Non, en fait, alors sur les relations de Galois avec cette personne, en fait, on en sait plus parce qu'il y a un verso en fait d'un des manuscrits sur lequel un historien il y a quelques années a reconstitué une lettre que Galois aurait recopiée, qu'elle lui aurait envoyée. Donc on voit qu'il y a une fille là derrière, en tout cas. Enfin, il y avait une fille dans la vie de Galois au moment où il est mort. Après, on ne sait pas exactement ce que lui en dit, c'est que c'est à cause d'une fille qu'il est allé se battre en duel. Après, on n'a pas plus d'éléments que ça. Voilà.
Mais là encore, concernant ses travaux mathématiques, il continue, alors qu'il est à la pension Fautrier, jusqu'à la fin, il continue faire des mathématiques et surtout à essayer de comprendre pourquoi il a été retoqué à l'Académie des sciences.
Alors, en fait, après avoir été retoqué à l'Académie des sciences, ce qu'il essaye de faire, c'est quelque chose que d'autres auteurs ont pu aussi essayer de faire à l'époque, c'est-à-dire en fait de contourner l'Académie, tout simplement de publier à compte d'auteur, de faire connaître ses travaux, soit dans des revues, soit vraiment par la publication de livres à compte d'auteur, soit par des textes. Il y avait un projet de publier aussi dans une revue un peu plus grand public, disons, ou généraliste, scientifique, mais plus généraliste. Donc effectivement, de passer par d'autres voies que celles de l'Académie. Donc il travaille là-dessus.
Et donc ça veut dire qu'il avait des débouchés hein, pour ses écrits. Ça correspond pas très bien avec l'image du génie incompris, mis au banc de la société.
Galois a déjà publié des articles de son vivant dans des revues, dans les revues scientifiques qui existaient en France à l'époque. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, ce qui s'est passé aussi, c'est que les revues dans lesquelles il publiait n'existent plus. Donc juste à la fin de sa vie, la durée de vie des revues n'était pas la même forcément qu'aujourd'hui. Et en tout cas, les revues dans lesquelles il avait publié au départ, on met la clé sous la porte en août. Donc il y a eu une période en fait de 5 ou 6 ans où en France il était très difficile de publier dans des revues, tout à fait. Après il y avait aussi le journal de Crêle en Allemagne par exemple, qui avait publié Abel.
Alors quelle est la postérité d'Évariste Galois? Comment ses travaux vont-ils être diffusés après sa mort? On en parle juste après Jackie Drop of Water sur RFI.
The morning light was not as bright as it was yesterday. We were wounded souls with bleeding hearts, too proud to admit that we needed to feed on each other's love. Just like we said we would. I need you like a thigh speed to drop a water. And I wanna hear your voice whispering in my ear. That we will make it no matter what's the maybe. I love each other until we cease to exist. Cease to exist. Cease to exist.
Jackie Drop of Water sur RFI. Caroline Erhardt, Évariste Galois est un grand mathématicien, mais c'est aussi un personnage éminemment romanesque qui inspire les écrivains. Vous avez sûrement entendu parler de François-Henri des Érables qui a publié Évariste chez Gallimard en janvier dernier, un roman mené tambour battant. Il vous cite d'ailleurs dans les remerciements à la fin du livre. Alors pourquoi écrire une fiction sur Évariste Galois, François-Henri des Érables?
Dans Dans mon premier livre, je m'étais intéressé aux derniers instants des grandes figures de la Révolution française, et là j'ai voulu écrire sur les duels. Et il y avait le duel de Pushkin, qui a vu la mort de Pushkin, il y a eu le duel qui a vu la mort de Hamilton contre Burr aux États-Unis, et puis il y avait le duel d'Évariste Galois. Et en me renseignant sur la vie d'Évariste Galois, j'ai trouvé qu'il avait une vie tout à fait fascinante, qui méritait d'être racontée. Alors je suis allé là où il a vécu, à Paris, j'ai essayé d'aller voir à Bourg-la-Reine, sa maison natale, mais elle n'existe plus. Je suis allé à l'Académie, pour dans la bibliothèque de l'Académie, pour voir son mémoire et sa dernière lettre. Et puis je n'ai pas pu aller sur sa tombe car il était enterré dans une fosse commune au cimetière du Montparnasse. Donc je suis allé sur tous les lieux, et puis je me suis documenté. Même s'il y a des pans entiers de la vie d'Évariste Galois qui nous sont inconnus et qu'il a fallu romancer.
Comment avez-vous construit ce roman 20 chapitres pour les 20 ans de la vie d'Évariste Galois ?
Alors j'ai voulu faire un roman assez court pour cette vie qui est assez courte. Il fallait que l'écriture soit au diapason de la vie d'Évariste Galois. Je ne pouvais pas me permettre de faire un roman fleuve. Il fallait que ça soit assez nerveux, mené tambour battant, 20 chapitres, comme les 20 ans qu'il a vécu. Oui.
Et vous vous adressez à une mademoiselle, pour quelle raison ?
Oui, je voulais que le narrateur soit un narrateur contemporain qui raconte la vie d'Évariste à une demoiselle. Cette demoiselle, elle a deux fonctions. D'abord, c'est d'alpaguer le lecteur. Cette demoiselle, c'est un peu le lecteur, donc c'est de l'alpaguer, de l'emmener au banquet durant lequel Évariste Galois porte un toast à la mort du roi, de l'emmener en prison avec Évariste, de l'emmener dans la chambre là où il passe sa dernière nuit à écrire sa dernière lettre. Et puis, la deuxième fonction, c'est simplement une histoire de rythme. Mademoiselle, ça rajoute des pieds à la phrase, et donc ça c'était utile pour le rythme de la phrase parfois.
Et ce qui est passionnant dans ce roman, c'est que vous replacez Évariste Galois dans son contexte, et on voit beaucoup de figures très importantes, littéraires, scientifiques, qui traversent ce roman. Donc il y a Nerval qui promène son homard en laisse, il y a Hugo, il y a Stendhal, côté mathématique, Cauchy, enfin il y a beaucoup de gens.
Oui, alors ça n'est pas du name dropping, hein. Simplement Évariste Galois a eu la chance, dans le peu de temps qui lui a été imparti sur cette terre, de rencontrer des gens comme Cauchy, qui était un immense mathématicien, Raspail, immense républicain qu'il a rencontré en prison. Il a croisé Alexandre Dumas lors d'un banquet, et d'ailleurs Alexandre Dumas s'est éclipsé par la fenêtre après le toast à la mort du roi. Et puis il a même croisé Gérard de Nerval le temps d'une nuit à Sainte-Pélagie, et ça on le sait, Nerval l'a raconté en quelques lignes. Et maintenant on ne peut que rêver sur ce qu'ils ont pu se raconter durant cette nuit.
Comment réagissez-vous, Caroline Erhardt, à cette réappropriation contemporaine de la figure de Galois ?
Oui, c'est un phénomène intéressant, parce qu'en fait, la question que j'ai voulu travailler dans mon livre, c'est pas tant la biographie de Galois que justement comment il se fait que Évariste Galois fait l'objet d'un tel engouement, et surtout d'un tel engouement en dehors des mathématiques, parce que c'est assez peu fréquent en fait. Et c'est vrai qu'il y a ce roman, il y en a eu d'autres avant, il y a même eu une BD, il y a eu un livre, un film d'Alexandre Astruc aussi, qui a été un moyen-métrage. Il y a eu énormément de choses en fait sur cette figure, en dehors du monde des mathématiques. Et ça, c'était en soi une vraie question, je trouvais.
C'est parce qu'il est mort à 20 ans, on dit le Rimbaud des mathématiques, alors, il y a tout cet imaginaire-là.
Alors c'est lié effectivement au fait qu'il a eu une vie un peu
brève et tumultueuse.
Après il y a eu probablement d'autres. Abel a eu aussi une vie brève, enfin peut-être moins rebelle, mais on peut imaginer qu'il y a tas d'autres mathématiciens dont on pourrait parler. Lui effectivement, alors il y a la dimension républicaine est importante, je pense, dans la postérité de Galois, parce que c'est aussi pour cela qu'au tournant du XXe siècle, certaines personnes sont intéressées par Évariste Galois, parce qu'il fait partie des jeunes révolutionnaires de 1830. En tout cas, c'est cette image-là qu'on en a. La vie brève, effectivement, le côté non reconnu par l'Académie des sciences. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui font que la figure peut se cristalliser. Puis après, il y a aussi le travail de mémoire qui se fait, tout simplement.
Et dans le champ des mathématiques, comment se fait l'appropriation ou la réappropriation des travaux de Galois ?
Alors la réappropriation des travaux de Galois, elle s'est faite en fait avec 14 ans après sa mort, en 1846, Joseph Liouville republie ses travaux dans un journal mathématique qui existe encore, c'est le journal mathématique pur et appliqué. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que les travaux de Galois se trouvent sur un support qui va circuler beaucoup plus facilement. Aussi à une période où les questions que l'on peut poser en mathématiques, le monde mathématique a déjà légèrement changé en 14 ans. Ce qui fait qu'en fait, il y a d'autres mathématiciens un peu partout en Europe qui se ressaisissent des travaux de Galois et qui vont commencer, justement, ils ont, les travaux de Galois ont cette particularité d'être un peu énigmatiques, un peu parfois, peut-être incomplets.
Vous dites qu'il y a une partie fantôme, hein.
Il y a une partie fantôme, mais du coup, ça laisse aussi de la prise à la créativité d'autres personnes.
Et quelles sont les applications aujourd'hui très, très concrètes de la théorie de Galois?
Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui. Un collègue mathématicien m'a dit que certains mathématiciens écrivaient le nom de Galois plus que le leur. Donc, il y en a vraiment beaucoup. L'exemple très connu, en fait, que l'on associe à Galois, c'est la théorie des groupes, mm-hmm. qui est une création début du XXe siècle, mm-hmm. disons. Par exemple, en algèbre structurelle, le processus galoisien de réduction d'un groupe, c'est quelque chose que l'on applique dans beaucoup de parties des mathématiques, en fait.
Et plus largement, Galois, c'est une philosophie des mathématiques.
Alors, il est associé aussi à cette idée que l'on va éviter de faire de très longs calculs et essayer d'aller à l'essentiel ou à l'essence des choses. Et ça, c'est quelque chose que l'on associe aujourd'hui à ce qu'on appelle l'algèbre structurelle. Là aussi, c'est quelque chose qui est un peu rétrospectif, hein. Mmh. C'est-à-dire que du temps de Galois, l'algèbre structurelle, ça n'existait pas, hein. Mais on l'a associé à ce mouvement-là d'abstraction de l'algèbre, disons.
Alors, pour tout comprendre de Galois, ou tout savoir, ou presque, en tout cas, ce qui est possible compte tenu des archives, je renvoie à votre livre, Évariste Galois, La fabrication d'une icône mathématique, paru aux éditions de l'EHESS. Merci beaucoup, Caroline Erhardt, d'être venue avec nous. Et un grand merci à Cécile Bonici.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Et la semaine prochaine, nous parlerons du groupe Bourbaki qui fête cette année ses 80 ans. Et lundi, vous retrouverez bien sûr Caroline Lachowski. À vendredi prochain.